Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Vous êtes toujours dans Restons courtois de l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous sommes avec Michel Maffezoli pour son nouveau livre, Mes tribus, souvenirs, pensées et rencontres. Mais vous savez qu'à 18h, 18h06 précisément, c'est l'heure de la chronique de Rémi Carlu qui va nous parler de la doctrine sociale de...
Et oui, cher Arthur, alors que 20 000 pèlerins concluaient ce lundi leur fabuleux périple vers Chartres, le pape Léon XIV publiait Magnifica Humanitas, Magnifique Humanité, sa toute première encyclique qu'il a voulu consacrer, comme c'était annoncé depuis le début de son pontificat, à l'intelligence artificielle. Cette encyclique est signée du 15 mai, date du 135e anniversaire de Rerum Novarum, cette fameuse encyclique par laquelle son illustre prédécesseur Léon XIII donna l'impulsion première et décisive à la doctrine sociale de l'Église. Et c'est plus qu'un clin d'œil, avec cette première encyclique, le pape Léon XIV a indéniablement voulu marquer les esprits et se faire le pape de la doctrine sociale 2.0.
Alors qu'entendez-vous par là ?
Eh bien j'en tiens pour preuve les deux premiers des cinq chapitres de l'encyclique, qui sont une réflexion de grande envergure sur l'essence de la doctrine sociale de l'Église, sans référence aucune à l'IA. Le pape y rappelle que si l'Église a la charge des âmes, elle chemine avec l'humanité dans la réalité concrète de l'histoire, et que de ce fait, elle se soucie aussi des corps. Les réalités terrestres ont leur consistance propre, bien sûr, mais l'Église se tient aux côtés du monde pour soigner ses blessures et éclairer ses agissements, n'en déplaise à ceux qui voudraient l'enfermer dans le strict champ de la morale, comme ce jeune catéchumène qui se trouve être vice-président des États-Unis. L'Église éclaire donc le monde, et elle le fait de manière dynamique, en répondant aux questions nouvelles posées par le développement des sociétés humaines, à partir du dépôt de la foi, à partir d'une conception chrétienne de l'homme et de la vie, ceci au travers d'un dialogue fécond avec les sciences humaines pour enrichir le discernement commun. Dans Magnifica Humanitas, le pape retrace donc le long cheminement du magistère social de l'Église et expose les grands principes dégagés par ses prédécesseurs, la dignité de toute personne, le bien commun, la destination universelle des biens, la subsidiarité, la solidarité, la justice sociale ou encore le développement humain intégral. Et c'est à partir de ce corpus de principes que Léon XIV va ensuite juger l'intelligence artificielle, cette question nouvelle qui va bouleverser tous les aspects de nos existences, comme la révolution industrielle le fit au XIXe siècle.
Alors justement, que pense Léon XIV de l'intelligence artificielle ?
Eh bien dans ce texte dont il faut souligner la clarté, l'envergure et la clairvoyance, le pape ne jette aucunement l'anathème sur l'IA. Le développement technique fait après tout partie intégrante de l'histoire humaine. Seulement, toute technique est ambivalente, elle peut servir le bien ou le mal selon l'esprit qui l'anime. Dès lors, nous ne pouvons pas considérer l'IA comme moralement neutre, nous alerte Léon XIV. Elle reflète effectivement les valeurs et choix de ceux qui les ont conçus et qui les utilisent. Ainsi, l'IA serait notamment le relais de ce que le Saint-Père nomme le paradigme technocratique. En clair, la logique de l'efficacité, du contrôle et du profit devient notre unique critère de décision et l'être humain est traité comme un matériau tordu à optimiser ou à surpasser, sans amour, sans charité, sans pardon. Plus largement, le pape souligne que l'IA renforce les inégalités existantes, qu'elle concentre les pouvoirs dans les mains de quelques grandes féodalités technologiques, qu'elle falsifie notre rapport à la vérité, qu'elle installe une surveillance généralisée, qu'elle nous transforme en données à exploiter, qu'elle nous sépare enfin les uns des autres par un simulacre d'interaction. Le risque, c'est que nous lui déléguions notre réflexion, notre mémoire, notre jugement et notre attention, y perdant au passage nos capacités cognitives, notre autonomie, notre liberté intérieure. À terme, c'est ni plus ni moins qu'un nouveau régime esclavagiste qui risque de s'instaurer.
Et en réponse, le pape nous appelle à désarmer l'IA. Qu'entend-il par cette expression ?
Désarmer l'IA, cela veut dire la soustraire à la logique de la compétition et de la puissance, que ce soit en matière militaire, économique ou cognitive. L'IA ne doit plus être un moyen de dominer les humains, mais un instrument nouveau pour édifier l'humanité tout entière. En fait, l'encyclique insiste à plusieurs reprises sur les rapports étroits que doivent entretenir science et morale. Si les acquis de la technique ne s'accompagnent pas d'un progrès moral et social en proportion, alors ils se retourneront contre nous pour faire advenir un monde anti-humain où le salut sera purement technique. C'est d'ailleurs toute l'ambition du transhumanisme, dont les Enhanced Games, ces Jeux Olympiques de dopé qui se déroulent actuellement à Las Vegas, se veulent la vitrine. Il peut donc y avoir un bon comme un mauvais usage de l'IA, ce que le pape démontre en s'appuyant sur deux images bibliques. Du mauvais côté, celui de la domination, il y a la tour de Babel, où l'œuvre commune est guidée par la puissance et l'orgueil qui finissent par déshumaniser. Du bon côté, celui de la relation, il y a la reconstruction patiente de Jérusalem sous Néhémie, c'est-à-dire une œuvre commune à laquelle chacun est appelé à contribuer dans le dialogue et le respect de la diversité pour le bien de tous. C'est ainsi qu'il faut comprendre le dernier chapitre de l'encyclique consacré à l'usage de l'IA dans le domaine militaire. Le Saint-Siège remarque que les systèmes d'armes autonomes, comme les drones, rendent la guerre plus accessible et la mise à mort d'autrui plus banale, sans égard à l'éthique ou à la responsabilité. À cette culture de la puissance, il nous faut donc substituer la civilisation de l'amour.
Mais propose-t-il des solutions concrètes pour y arriver ?
Eh bien, certains ont critiqué l'utopisme de l'encyclique. Je trouve, au contraire, qu'elle regorge de méthodes et de solutions assez concrètes pour tous les acteurs. Utilisateurs, croyants, parents, écoles, entreprises, géants technologiques, États, communautés internationales, au point qu'on pourrait y voir un véritable programme politique. Dans la veine de Léon XIII, il y a par exemple un magnifique développement sur la nécessité de préserver la dignité du travail à l'heure où les machines menacent de nous remplacer. Le nerf central de ce programme pontifical, c'est la défense et l'amour de la condition humaine. Seule l'Église, parce qu'elle sait combien l'humanité est branlante, peut aujourd'hui la défendre pour ce qu'elle est authentiquement et spécifiquement, c'est-à-dire l'image de Dieu. Oui, cette humanité est singulière. Si sa puissance de calcul est impressionnante, l'IA n'est pas assimilable à l'intelligence humaine, car elle n'a ni sens, ni cœur, ni conscience, elle ne peut ni aimer, ni souffrir. Oui, cette humanité doit assumer les limites, les fragilités, les vulnérabilités de sa chair, qui sont les moyens de nous ouvrir vers ce qui nous transcende. Le plus qu'humain existe bien au-delà de l'imaginaire technique, c'est l'amour de Dieu qui nous transforme et vient accomplir notre humanité. En bon augustinien, Léon XIV voit bien que c'est toujours et encore le combat des deux cités qui fait rage dans notre cœur, ce sera l'immortalité technique ou la résurrection. Je conclurai avec ces mots du pape qui résument parfaitement l'esprit de son propos. À l'ère de l'intelligence artificielle, où la dignité humaine risque d'être éclipsée par de nouvelles formes de déshumanisation, nous avons le devoir urgent de rester profondément humains, en préservant avec amour cette magnifique humanité qui nous a été donnée et manifestée dans sa plénitude dans le Christ, et qu'aucune machine ne pourra jamais remplacer dans sa splendeur.
Merci Rémi Carlu, Michel Maffezoli, vous avez eu le temps de lire la nouvelle et première encyclique de Léon XIV, qui était très attendue.
Vous voulez vraiment que je vous réponde ?
Ah oui.
Je suis un peu gêné. Je n'ai pas lu.
Alors ?
J'ai pas lu, mais...
Et vous avez probablement un avis sur ce que vous avez entendu.
Oui,
et...
d'ailleurs, c'est très bien. J'apprécie énormément ce que vous venez de dire. Sinon, que ce n'est pas mon genre, ça. Hein, c'est-à-dire que vous avez cité Léon XIII, hein, Rerum Novarum. Alors, peut-être ça s'inscrit ça. Moi, je préfère de Léon XIII, Éternée Patrie. Mmh. Bon. Et dans le livre précédent, je rappelle que, pour diverses raisons, j'ai eu deux fois un entretien avec Benoît XVI. À l'Élysée une première fois, et puis il m'avait fait venir à Rome, et on a passé quasiment une journée. Il avait lu un de mes livres en allemand, il était en désaccord. Mais on a eu une discussion sur Catalogne, justement, je vais faire l'économie de ça. Mais lui, c'était un penseur. Voilà. Je ne parle pas du pape intermédiaire après. Mais par contre, ce Léon XIII, ce Léon XIV, je me suis demandé... En disant, est-ce que ça va être plutôt Rerum Novarum ou Éternée Patrie, voilà. Malheureusement, non, je suis a priori en désaccord profond avec cette encyclique qui vient de paraître, sans l'avoir lu. Hein.
Alors vous la lirez et puis vous nous direz ensuite.
Je la lirai. Non, je ne sais pas si je vais la lire. Parce que je suis un catholique traditionnel. Et je suis pour la cité de Dieu, augustinienne. Voilà. Et pas du tout, je pense que l'Église n'a pas à s'occuper de la cité de la terre. Voilà, c'est tout. Hein. Et je considère que ces encycliques ne sont... Ça peut être très intelligent, ce que vous en avez dit, vraiment. Je considère que ça doit être un bon texte, voyez, pour dire les choses simplement. Mais ce n'est pas du domaine de la propreté. Voilà. Mais ça, c'est mon vieux côté réac. Hein. Je suis un vieux réac à la manière de Joseph de Maistre, hein, quand il critiquait justement l'utilisation de la pensée par une Église. Dans ce qu'il dit sur le pape. Lisez le texte de Maistre sur le pape. C'est mon sentiment, voilà, c'est tout. Je n'ai pas envie de répondre plus avant. Encore une fois, apparemment, et ce que vous en avez dit bellement, c'est certainement une belle encyclique. Elle ne me paraît pas en phase avec ce que, personnellement, moi, j'attends de l'Église. Voilà, pour dire les choses simplement.
Alors, revenons aux tribus, parce que je pense que il faut revenir sur ce qui, voilà, sur ce qui a fait votre œuvre, ce que vous avez vu en 90, en 88, mm-hmm. que l'autre n'avait pas vu, et qui se révèle chaque jour très juste. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler justement ce concept de tribu, parce qu'on a pas forcément une image très juste, ou en tout cas très positive de la tribu. On pense réflexe tribal, dynamique tribale, retour à la barbarie, communautarisme fermé, alors que c'est pas ça.
Bon, c'est compliqué, hein. J'ai écrit ce livre en effet, c'est amusant, je voulais à l'époque écrire un livre sur le peuple, et puis c'est devenu un livre sur les tribus. Avec cette idée de base, je m'étais, d'ailleurs mes chers collègues me l'ont bien reproché, je m'étais inspiré des ethnologues, j'étais là dans une faculté où il y avait beaucoup d'ethnologues, et qui rappelaient cette belle chose, disant dans les jungles, la tribu ça a cette fonction, serrer les coudes, hein, lutter contre l'adversité animalière, végétale, d'autres tribus, etc. Serrer les coudes, bien. Et moi j'ai pris cette idée en disant, mais dans les jungles de pierre que sont nos mégapoles contemporaines, la tribu a la même fonction, hein, si je dis bêtement, serrer les coudes, hein, entraide, partage, etc., des éléments de cet ordre, Internet aidant. Hein, et à l'époque, déjà, je montrais comment les réseaux sociaux participaient de ce retour. Voilà, c'est tout. Je reprenais, d'une certaine manière, pour essayer d'expliquer la postmodernité, je l'ai dit tout au début, non plus la République une et indivisible, mais une respublica plurielle. Hein. Et pour ce faire... alors que ce qui est dominant encore en France actuellement, c'est cette tradition, je vais dire, un peu marxisante, hein, du dépassement, hein, le progrès, hein, le progressisme, machin chose, etc. Au fait, bon, hein, la grande idée, le concept heideggerien de dépassement, dont le transhumanisme est la forme achevée. Etc. À l'opposé de ça, moi, j'étais inspiré par une pensée heideggerienne difficile à traduire. En allemand, c'est, pour ceux qui comprennent l'allemand ici, c'est Verwindung. Alors, quand on essaie de c'est un des grands concepts de base d'Heidegger, c'est reprise, distorsion, guérison, hein, si on traduit ce terme. Et dans le fond, voilà ce que je reprends l'idée de tribu, celle des jungles stricto sensu, distorsion, je les tords un peu, et me paraît que cela peut aboutir à la guérison du corps social. Voilà mon hypothèse. Hein, c'est-à-dire, du moment qu'il y a cette pluralité de communautés, encore une fois, peu importe le terme, eh bien, il faut trouver un moyen d'arriver à s'ajuster à cette pluralité qui est là. Quand cette grande dame de la pensée, Hannah Arendt, montre comment s'élabore tout au long du XIXe siècle l'idéal démocratique, hein, difficultés, recul, machin chose, opposition. Et puis, bon, cet idéal démocratique marche, ça va se réaliser. Ce n'est plus le cas maintenant. Pour moi, la démocratie, c'est fini. Et c'est là où, personnellement, vous avez employé l'expression qui m'est chère, tout au début, tout à l'heure. Pour moi, de la même manière qu'il y a eu cet idéal démocratique au 19e, il y a actuellement un idéal communautaire en gestation. Ce qu'on a du mal, puisqu'on parle de communautarisme, on va parler de trucs comme ça. Alors que moi, ma position, comment dire, pensons à Nietzsche, il montrait qu'il y avait une différence entre une logique du devoir-être, ce que devait être le monde, ce qu'on aimerait qu'il soit, ce qu'il pourrait être, ce qui est dominant dans l'intelligentsia française. Hegeliano-marxisante, hein, vaguement, ils n'ont pas lu Marx, mais ils sont ça. À l'opposé de cela, moi, je montre... Nietzsche montre qu'il y a la logique de ce qui est. Constat. Heidegger a utilisé ça, c'est la phénoménologie. Eh bien, ce qui est, c'est ça, qu'on le veuille ou non, il y a cette diversité. Il y a ces tribus musicales, religieuses, culturelles, sexuelles, etc. Et Internet aidant, réseaux sociaux, ça conforte en quelque sorte sa multiplicité de petites tribus. Pour moi, la tribu actuellement, c'est un partage d'un goût, je viens de les dire. Et puis donc tout l'art de penser, et puis après de s'organiser, c'est comment justement on va ajuster ces diverses tribus, c'est pas facile. On vit dans une période intermédiaire, qui est une période crépusculaire et difficile, hein, où les conflits sont là, constants. Mais je sais pas si je vous réponds, voilà un peu mon sentiment.
Hein, voilà. Romaric, son garçon.
Oui, cette question d'un retour de grande diversité qui avait été raboté un peu par la modernité, qui en effet a tendance à formater les populations, à les concentrer, mais qui permet peut-être aussi plus de démocratie, comme vous le disiez justement, puisqu'il y a plus de mèmes, il y a plus de capacité de dialogue sur les mêmes bases, je veux dire. Est-ce que dans ce retour que vous décrivez très justement et qui en effet un peu, enfin inéluctablement ce qu'on aperçoit, y compris à cause des nouveaux modes de médiatisation qui encouragent et qui développent cette tribalisation du monde de manière générale, est-ce que ça ne va pas impliquer pour ces ajustements dont vous parlez un pouvoir centrale, verticale très fort, ou alors des instances de contrôle très sophistiquées pour réussir à éviter le chaos? J'entends par là que dans les empires, les anciens empires, il y avait des grandes diversités de populations qui tenaient parce que, en gros, plus l'empire était vaste, plus il y avait un dieu-roi, un empereur-roi-dieu ou un pharaon qui stabilisait cette diversité. Et puis, dans l'ère moderne, finalement, l'État-nation, avec un peuple qui est vu comme homogène et acteur lui-même de son destin, on arrive à avoir moins besoin de ce référent absolu. Est-ce que vous ne croyez pas que revenir dans une grande diversité des populations va obliger à des instances de contrôle plus dures?
Non, c'est pas mon sentiment. Ouais. C'est le sentiment que je vais vous donner, hein, pas autre chose. On peut définir en effet une... On a dit des civilisations. On n'a pas assez dit mon idée essentielle, c'est qu'il y a des époques. Époque, ça veut dire parenthèse. Hein, une parenthèse s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Et pour moi, la parenthèse moderne est en train de se fermer.
Et on arrive dans la postmodernité.
Attends un peu. Entre des époques, il y a des périodes. Et moi, je fais des différences sémantiques. L'époque, ça dure 3 siècles. Une période, ça dure quelques décennies. Ce que nous vivons, les périodes un peu crépusculaires, où on pressent ce qui est en train de s'achever, on ne sait pas encore exactement ce qui est en train de naître. Voilà. C'est la période où nous sommes. Mais les élites restent sur les grandes valeurs modernes, fondamentalement. J'ai dit tout à l'heure, réduction, tout nous on réduit à l'un, un de l'individu, un de l'État-nation, etc., etc. Moi, mon sentiment, et ça sera d'ailleurs l'objet de mon prochain livre, c'est le retour du Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge, il y avait des solidarités de base importantes qui se faisaient. Mais ce n'était plus l'un, le topos n'était plus la verticalité, c'était l'horizontalité. Le Saint-Empire romain germanique, l'empereur, en vous écoutant, j'y pensais, c'était un truc symbolique. La vraie réalité, elle était dans la région, la cité, la police, c'est la cité, etc. Bien. C'est mon sentiment, moi, le localisme, ce que j'appelle le lieu fait lien. Voilà. Et donc, il y aura quelque chose comme ça, symboliquement, symboler, ça rassembler les morceaux. Symboliquement, il peut y avoir une entité, on peut penser une Europe, qui serait ça, le brave Maxime. Bon, la vraie réalité du pouvoir, pour moi, va se faire à la base, au niveau.
D'accord.
C'est ça que j'appelle les tribus, vous voyez. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il peut y avoir une union en pointillé. Là encore, revenons à la théologie. Saint Thomas montre que, à l'opposé de l'unité, c'est ce qu'on continue à analyser, il y a l'unicité qu'il applique au mystère de la Trinité. Un seul Dieu en 3 personnes. Bien, pour moi, c'est de penser l'unicité. Alors que globalement, on continue à penser l'unité. Et il se trouve qu'Internet aidant, oui, c'est les réseaux sociaux. On est en retard d'une guerre en France là-dessus. Moi, je vais au Brésil, lui, il travaille sur le net activisme depuis longtemps et bellement. Voilà, moi, je pense qu'il faut réfléchir justement, grâce à ces réseaux sociaux, à cette unicité. Vous voyez, restons dans la théologie. Au 3e, 4e siècle de notre ère, il y avait 3 religions à mystère, Orphée, Mitra et le christianisme. Le christianisme, c'était la religion des pauvres, des soldats sans grade, etc., etc. Et l'Église, à ce moment-là, 2000 ans, la petite secte de 2000 ans, va sécréter quelque chose de passionnant que les gens de mon âge nous ont appris au catéchisme, la communion des saints. C'est-à-dire cette petite église de 1000 ans, unie en pointillé avec celle de Lugdunum, de Lutèce, de Narbonne, de Rome, etc. Et c'est parce qu'il y a eu cette communion des saints qu'il y a eu le triomphe du christianisme contre les 2 religions importantes et dominantes, avec Calais qui devait... Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que d'une certaine manière, c'est ce qui est en jeu actuellement. Pour moi, Internet, c'est la communion des saints postmoderne. C'est-à-dire quelque chose qui fait que d'une certaine manière, ces petites tribus en pointillé, unicité, sont unies les unes par rapport aux autres, et c'est ça qui va donner, de mon point de vue, la société à venir. Non plus le topos, verticale, mais un topos, une topique horizontale. Je vous réponds, je ne sais pas si je vous réponds.
Si, si, tout à fait.
Je rajoute une donnée qui est l'intelligence artificielle voit de plus en plus d'adultes, d'adolescents, même d'enfants, qui avant dialogué, échangé sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui dialoguent avec une intelligence artificielle, à tel point qu'ils ne sortent plus, qu'ils ne voient, ils n'ont plus d'amis. Est-ce que l'intelligence artificielle peut rebouleverser déjà ce qui se passait, passait depuis quelque temps?
Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Hein. Encore une fois, je sais répondre aux mails, je sais, mais je suis pas, c'est pas mon.
On voit des gamins qui discutent avec
lui. Écoutez-moi, Jérémy. Ce que je veux dire, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, hein, lisez Le Nom de la Rose d'Umberto Eco, par exemple. Hein, quand justement, c'est l'imprimerie, les moines qui faisaient le manuscrit censurent ce roman et le film en faisant l'expression. Et puis on le voit chaque fois qu'il y a quelque chose de cet ordre. Hein, il y a une espèce d'opposition. Ça a été pareil avec la tous les réseaux sociaux et tout ça. Moi, je n'ai pas forcément peur de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a un apprentissage pour le meilleur et pour le pire. Voilà, ça c'est mon idée obsédante depuis longtemps. Ordo ab chaos. Hein, l'ordre à partir du chaos. Avec des difficultés, avec des oppositions, avec des embarras. Mais on peut faire l'apprentissage aussi de cela. Comme l'on a fait l'apprentissage de l'imprimerie, comme on a fait l'apprentissage de la cybernétique, on a fait, etc. Vous voyez, c'est tout. Hein, ça, je le dis avec une simplicité, parce que moi, je ne suis pas à l'aise, hein, je vous l'ai dit. Mais après tout, quand on regarde sur la longue durée, 2000 ans de temps historique qui nous sont donnés, on voit qu'il y a toujours ce processus. Hein, de quelque chose de nouveau arrive, ça fait peur, et pourtant, c'est à partir de là qu'on va arriver à une vibration. Hein. Voilà, ma position, ce n'est pas le progressisme, vous l'avez compris.
Oui, bien sûr.
Mais c'est la progressivité, c'est ça la Fermino, hein, la progressivité. On reprend des choses, on se dépatouille avec ça, et puis ça peut apporter une forme de guérison.
Romaric, son garce.
Oui, cher Michel, ce qui est étonnant, je trouve, qui fait d'ailleurs votre personnage et votre charme, c'est que vous avez un point de vue sur l'évolution des choses qu'on pourrait qualifier de réactionnaire ou qu'on pourrait qualifier simplement de grande amplitude, où vous ne vous attachez pas à la religion du progrès récente et vous avez une perspective beaucoup plus large. En général, dans ce cas-là, on a tendance à être pessimiste, voire crépusculaire. Or, vous avez l'optimisme d'un fanatique du progrès, tout en ne croyant pas à la religion du progrès. Donc, d'où tenez-vous cet optimisme?
Non, j'aime pas qu'on me dise ça. On me dit que je suis optimiste, etc. C'est des catégories morales. Je suis immoraliste, personnellement. Donc, de toute façon, je ne peux pas rentrer là-dedans. Je suis thomiste,
oui.
C'est-à-dire réaliste. Hein, Saint Thomas, « Nihil est in intellectu qui non fit prius in sensu ». Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans l'essence. Ce qui se passe avec ce développement technologique, c'est dans l'essence. Et puis, ça peut arriver à l'intellect. Voilà mon hypothèse. C'est-à-dire, c'est du réalisme. Voilà. Alors, de fait, vous avez raison. Je le dis, je peux le redire. Je n'ai pas peur de le dire. Ce n'est d'ailleurs pas de moi. J'emprunte la formule à Joseph de Maistre. Je suis réaliste. Je suis réactionnaire et pas conservateur. Voilà ma définition. Réactionnaire et pas conservateur. C'est-à-dire, réactionnaire dans le sens étymologique du terme. Vous avez compris la tradition. Hein, c'est-à-dire, rendre attentif à ce qu'on avait oublié. J'ai commencé par là, je le redis, mon oxymore essentiel, c'est l'enracinement dynamique. Hein, c'est à partir des racines du namis, en grec, qu'il y a une force. Voilà ma réponse, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on va se dépatouiller, on va s'ajuster à cela, et c'est pas, alors disons optimiste si vous voulez, moi je dis réaliste. Réaliste dans le sens thomiste du terme, c'est-à-dire prendre acte de ce qui est là, réel, et que c'est à partir de ce réel qu'il peut y avoir une transsubstantiation. C'est mon hypothèse.
Michel Maffezoli, merci beaucoup. Je rappelle donc votre dernier livre, Mes tribus, souvenirs, pensées, rencontres, publié au CERF. Et donc, un nouveau livre est déjà en préparation. Donc, on vous réinvitera pour en parler. Merci beaucoup. Chers auditeurs, nous on se retrouve dans quelques minutes. On va parler de Monterland. We'll be right back.
Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Et oui, chers auditeurs, vous êtes toujours dans Restons courtois, l'émission de débat de radio courtoisie. Et je peux vous dire qu'à 40 degrés, bah, vous n'avez rien d'autre à faire que c'est chez vous avec un ventilateur et écouter Radio Courtoisie. Maxime Dalle, bonjour.
Bonjour.
Merci
Arthur,
d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes directeur de la publication de la revue littéraire Raskar Kapak, une revue qui depuis plusieurs années creuse son sillon dans les lettres françaises en défendant des auteurs exigeants, souvent mésestimés, parfois oubliés. Et donc vous venez de consacrer, un numéro spécial à Henri de Monterland, un ensemble de haute tenue, évidemment, comme à chaque fois, qui donne envie de lire ou de relire surtout cet immense écrivain. Mais avant de parler de votre revue, de vous et de Monterland surtout, nous avons une tradition, celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Hmm, ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Maxime Dalle, quel est le premier livre qui vous a donné envie de faire une revue littéraire?
Je dirais que c'est le journal de Jean-René Huguenin, cet écrivain mort à 26 ans en 1962, qui a été d'ailleurs l'objet du premier numéro qu'on a consacré à un écrivain dans la revue Raskar Kapak il y a maintenant 10 ans et qui a été un détonateur incroyable dans nos vies à tous les trois, parce que la revue Raskar Kapak, c'est Archibald, c'est Yves de la Foi et c'est moi-même. Et je crois que le journal de Jean-René Huguenin, qui a une force extraordinaire, nous a poussé à aller jusqu'au bout des choses pour faire monter sur le bûcher de la momie les artistes irréguliers qu'on aime et des condottières aussi assez inclassables. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler.
Continuer à éditer une revue littéraire en 2026, c'est un acte de résistance, une thérapie de groupe ou une preuve de masochisme?
Je dirais les trois, mon général. Acte de résistance dans la mesure où le fait que ce soit une revue papier, et ça on y tient beaucoup, une jolie revue papier, c'est résistance à la virtualité, aux tablettes tactiles, à une forme de modernité virtuelle, c'est le cas de le dire. Thérapie aussi, dans la mesure où les artistes dont on parle sont, à mon sens, des plus fins psychologues en fait, qui puissent exister sur la Terre. Ils saisissent le cœur humain comme, à mon avis, aucun psychiatre ne peut le faire avec ses camisoles chimiques. Et après, masochisme aussi peut-être un petit peu, dans la mesure où, comme on décide dans la revue de célébrer tel artiste pour son œuvre, ou on choisit aucune signature mainstream, hein, c'est ceux qui n'ont pas encore lu nos numéros vont apprendre à nous connaître. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de faire, d'initier en réalité le lecteur à des artistes, à des aventuriers qui n'auraient pas eu la possibilité de découvrir. Et je dirais que parfois, ça fait œuvre aussi de quiproquo. Donc pourquoi je parlais de masochisme? Parce que souvent, au temps des réseaux sociaux, quand on fait un numéro sur Paul Morand, par exemple, on est taxé de collaborationniste, un numéro sur Blondin comme un apôtre de l'alcoolisme, sur Hugo Pratt comme un amateur de parties fines et de tango argentin, enfin tout ça n'a aucun sens, et nous on s'attache vraiment au texte et on fait des choses assez sérieuses. Donc on fait le pas de côté sur les réseaux sociaux et on essaie de s'attaquer au vif des artistes.
Alors justement, quel est l'auteur que vous défendez, que vous avez défendu et qui fait fuir tout le monde dans un dîner, et un dîner mondain particulièrement?
Il y en a un certain nombre. Je dirais que parmi eux, il y a le Voldemort de la littérature française, de M. Le Maudit. Quand vous prononcez son nom, on a tous les Harry Potter comme ça, qui est de pacotille, qui s'agitent avec leur baguette magique. Et là, je vois que vous me voyez venir à 200 km, et je veux bien sûr parler de Jean d'Ormesson, que estime tout particulièrement d'ailleurs notre ami Romaric.
Évidemment. L'auteur mort, que vous auriez aimé voir écrire dans votre revue?
Je dirais Baudelaire. Spontanément, je pense qu'on se serait très bien entendu, mais il nous aurait allumé des fusées célestes extraordinaires, ça j'en suis certain. Mais il me paraît un peu irréel, donc je répondrai d'une manière directe, finalement, Lucien Rebatté, pour donner une réponse plutôt de compromis, Arthur.
C'est un beau compromis, ça. Si vous étiez condamné à publier pendant 10 ans un seul auteur, ce serait qui?
Alors condamné, oui, il y a un côté un peu négatif, mais sur le plan en tout cas positif, si j'ose dire, je dirais Sisia Zike. C'est un aventurier actif que m'a fait découvrir d'ailleurs Archibald Denet. Sisia a arpenté l'Amérique du Sud et l'Australie à la recherche d'or, de jolies femmes, d'une vie complètement hors norme. C'est un type totalement hors du commun, qui aimait à la fois se bagarrer à coups de latte et écrire avec son sang, Et je crois qu'on aimerait beaucoup le publier, alors 10 ans, peut-être même 20 ans, qui sait. Et j'imagine bien une intégrale des œuvres de Sidi Azikeux, parce qu'il est mort maintenant malheureusement, avec une longue préface d'Edouard Louis, notamment, sur la violence systémique chez les écrivains orpailleurs. Je crois qu'il y aurait vraiment un sujet.
Quelle est la vertu idéale ou parfaite d'un écrivain ?
Bah, la vertu idéale, là encore, je pense à Baudelaire et à ses fusées. Je dirais que c'est laisser des pages pour dater sa colère. Hein, c'est la phrase de Baudelaire. Et je crois que la plus grande vertu de l'écrivain, c'est en réalité de chercher la vérité à travers son cœur, sans faux semblant. L'écrivain, à mon sens, c'est quelqu'un qui se met à nu. C'est un petit peu le martyr de sa propre cause aussi. Donc, je dirais le courage, tout simplement. Être courageux.
Et le vice nécessaire ou obligatoire ?
Bah, c'est un peu le pendant de cela, c'est-à-dire que c'est à la fois pour un artiste, c'est sa singularité, donc c'est persévérer dans son être, refuser les régiments de tous ordres, et en quelque sorte, on peut considérer ici ou là comme un égotiste, comme un misanthrope, parfois bourgeoisement comme un égoïste ou un orgueilleux, mais moi je verrais plus l'artiste comme un, en renversant en réalité ce vice comme une vertu, l'artiste comme un fructifieur de talents, pour reprendre la parabole christique, je crois qu'un artiste fait fructifier ses talents et essaie de rendre l'humanité un petit peu moins médiocre.
Quel est le contributeur idéal ? Celui qui rend à l'heure ? Celui qui écrit bien ? Ou celui qui demande jamais de relire vos corrections ?
Alors je dirais... Alors moi j'aime celui qui rend à l'heure, ça c'est sûr, parce que je suis un peu un maniaque de l'horlogerie suisse, j'aime beaucoup la Suisse et son horlogerie, mais cela dit, je me refuse au management toxique, je suis quelqu'un de bienveillant, il faut quand même le savoir. Donc, par conséquent, j'exige tout de même à mes contributeurs qu'ils écrivent très bien, ça c'est sûr, et qu'ils ne demandent jamais à relire mes corrections. Ça me semble être la moindre des choses.
Un dîner avec 5 écrivains, morts ou vivants ?
Alors ça, c'est les questions à l'ardisson que j'adore. Et avec Archibald, on peut passer des nuits entières à refaire le monde en imaginant des dîners complètement absurdes. Alors, je dirais que, comme ça, le quintet... Je convoquerai à la fois Saint Jean, qui est un écrivain, un grand poète, et le Saint Jean de l'Apocalypse dans sa grotte. Avec lui, Nietzsche, le Nietzsche de Silmaria, qui est en transe, en euphorie, en découvrant l'éternel retour, en Haute-Engadine, en Suisse. Le troisième larron, ce serait Casanova, mais le Casanova est évadé des plombs, qui a ce côté tricard à travers l'Europe. Donc ça m'intéresserait de l'avoir à notre table. Pourquoi pas Kazantzaki en quatrième position, mais un Kazantzaki qui vient de mettre le point final à Alexis Zorba, à son roman fétiche. Et enfin, peut-être, pour avoir un côté un peu festif, un peu léger, je dirais Guillaume Dustance ou MDMA. Je crois que ça donnerait un quintet assez explosif, assez extraordinaire. Et avec, pour sujet du dîner, parce que c'est bien d'avoir 5 convives, mais encore faut-il avoir un sujet de dîner. Et je verrais bien un dîner extrêmement profond sur... pourquoi pas la candidature de Gabriel Attal en France en 2027. Je crois que ça passionnerait mes convives, j'en suis convaincu même.
Puis il faudrait plusieurs traducteurs aussi, à moins qu'ils parlent tous français. Et ça serait où ?
Ben là où je suis actuellement, c'est-à-dire dans le Val-Espire, dans le sud, face aux Pyrénées. Alors j'imagine bien le dîner, donc Nietzsche, Saint-Jean, Kazantzaki, Dustan et Casanova, face au Val-Espire, face au pic du Canigou. Avec un service de table exemplaire et un majordome, je l'imagine bien habillé en Napoléon sur le pont d'Arcole et qui nous servent des vins extraordinaires jusqu'à l'aurore. Ça serait un rêve. Ouais.
Quel est le prix littéraire le plus inutile ?
Les prix littéraires, il y en a une palanquée toutes les semaines. Effectivement, on est servi de prix littéraires. Alors pour être peut-être au cœur de l'actualité, je dirais le prix, parce que je crois qu'il a été lancé avec une très grosse dotation, le prix Patrick Bruel, mais j'ai l'impression que plus personne ne le recevra aujourd'hui. Donc ça mettrait un coup quand même dans l'aile à tous ceux qui veulent persévérer dans la carrière et dans le genre de lettrisme germano-pratin. Donc oui, le plus inutile aujourd'hui, je crois que c'est le prix Patrick Bruel.
Et enfin, pour finir, l'écrivain le plus chiant de toute la littérature française.
Voilà, Arthur, il y en a des grappes entières. Hein. Moi, je ne les lis pas tous et j'admire votre camarade Romaric Sangar de pouvoir les lire comme ça pour l'incorrect. Je ne sais pas comment il fait.
Bien sûr, ouais.
Ouais, mais bon, tu arrives quand même à lire les premières pages et sans doute les dernières. Ouais. Mais bon, comme ça, je dirais que moi, les livres que je reçois comme ça, les premières pages, ensuite, je pars en fait, je vais vous donner une petite astuce. Je pars dans le quartier du Marais, dans le 4e arrondissement, et je les mets dans les boîtes à livres, juste à côté des pissotières, vous savez. Et à ce moment-là, si vous allez par exemple dans le Marais, vous découvrirez à coup sûr, avec mon paraphe, l'intégrale d'Annie Arnaud. Je peux vous l'assurer. Enfin.
Merci Maxime Dalle. Alors, donc je rappelle, vous êtes le directeur de la publication de la revue littéraire et cofondateur, donc Raskar Kapak. Alors déjà, le titre, quelle idée ?
Oui, Raskar Kapak, ben là on est encore dans l'enfance. Hein. Raskar Kapak, c'est la momie Inca dans Tintin, vous savez, dans les 7 boules de cristal, qui est le temple du soleil.
Une momie
c'est
effrayante.
Une momie qui fait un peu peur, hein, qui fait un peu peur parce qu'elle intervient toujours dans la nuit, dans les rêves et les cauchemars de Tintin, du Capitaine Haddock, du Trifon Tournesol. Et en même temps, elle est là pour réveiller un peu ces Occidentaux endormis à Moulinsart, pour les pousser vers l'aventure, vers quelque chose de puissant, vers aussi la recherche de leur grand ami, puisque Tournesol, dans les 7 boules de cristal, se fait enlever par une bande d'Incas. Et on a trouvé cette figure totémique de Raskar Kapak comme révélatrice du bûcher qu'on voulait allumer pour mettre, à l'ordre du jour, notre contre-panthéon, avec tous les artistes dont on a parlé depuis maintenant 10 ans. Donc je trouve que c'est une figure... Vraiment intéressante et assez radicale, et en même temps qui restait dans le champ de l'enfance. Et donc, je crois que ça nous correspondait bien avec Yves et Archibald, et on est parti là-dessus, et on continuera. On continuera parce que c'est une figure qui marque les lecteurs.
Alors, comment est née la revue ?
Alors, la revue, c'est née... c'est pour ça que je parlais du Gnin au départ, c'est que la revue sans revenu est née en réalité de trois amis. Donc, Archibald Denet, qui est en train de dormir à côté de moi, mais je pense qu'il pourra venir participer peut-être un peu à la mission pour parler de Monterland, parce qu'il est très brillant. Donc, de trois amis, Archibald, Yves et moi-même, et on se retrouvait à l'âge de 20 ans dans les bistrots parisiens, et on s'est dit... qu'est-ce que la NRF et telle revue seront emmerdantes, cet esprit de sérieux permanent. Et donc, on s'est dit, on veut fonder quelque chose qui soit à notre image, tout simplement, comme tant d'étudiants d'alors ont pu fonder des revues qui sont un peu l'esprit d'une confrérie. Donc, on s'est dit, bah, allons-y. On a commencé par un premier numéro en format gazette qui était consacré à Jean-René Huguenin, avec donc des inédits d'ailleurs, hein, parce qu'on fait toujours du travail un peu d'investigation. Et ensuite, ça a continué 5 ans, 10 ans. Et puis là, on en est à la 11e année de la revue, donc avec ce numéro de Monterland. Donc, c'est l'histoire vraiment d'une amitié qui s'établit en confrérie pour vénérer et faire des exercices d'admiration, en tout cas, sur des figures qui nous paraissent intéressantes et importantes dans notre vie spirituelle quotidienne.
Et comment vous pourrez définir la ligne éditoriale ? Et pour ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas encore, à qui s'adresse, à quel type de lectorat vous vous adressez ?
Ben ça, c'est toujours intéressant, parce que quand on avait le format abonné, mais c'est toujours pénible ce format abonné, parce qu'il faut relancer, on est obligé de rester finalement vivant 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Donc là, l'avantage, c'est qu'on n'a plus de format abonné, donc on achète le numéro... directement en ligne, ou on peut le trouver en librairie. Donc, je me suis rendu compte, grâce au format abonné il y a quelques années, qu'on avait un lectorat extrêmement divers, plus masculin, mais quand même du féminin aussi, des jeunes essentiellement. Et après, qu'on le veuille ou non, on nous a souvent taxé d'anarcho-droitiste, d'anarchiste de droite, etc., sur notre ligne. Donc, il doit y avoir une petite part de vérité là-dedans, je suppose. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours un peu étonné quand on nous dit, c'est ce que je disais en préambule dans votre questionnaire, Arthur, c'est que moi, quand je parle, par exemple, d'Alexandre Dumas, ou si on faisait un numéro sur Alexandre Dumas, est-ce qu'on serait forcément de toutes ces options politiques ? Ça me paraît absurde, en réalité. Donc, c'est pas dans un engagement politique, mais dans un engagement esthétique. Je crois que la ligne, c'est les âmes fortes dont parle Huguenin dans son journal, c'est des êtres qui ne se laissent pas corrompre par la société de massificatrice, comme ça, horizontalisatrice, horizontale, et donc par conséquent, je dirais que c'est des êtres à part, comme devraient l'être tous les artistes d'ailleurs, et qui ont une grande part de liberté dans leur existence, dans leur trajectoire, et qui en même temps sont allés au bout, et c'est vrai que nous, ça nous fascine, quoi, ce genre de trajectoire de type qui, à l'âge de 20 ans, prend sa plume, et jusqu'à la mort, est fidèle à son engagement adolescent, je crois que voilà, on est plus attaché à la ligne éditoriale, c'est les forts tempéraments. Et comme le disait Hugo Pratt pour Corto Maltese, Je crois que le tempérament, c'est le destin. Donc voilà, on est attaché à ces êtres de destin qui ont un destin fort et on s'y attache depuis le début en réalité. Mais politiquement, ça me paraît toujours un peu hasardeux d'essayer de nous classer, quoi. On est d'ailleurs assez différents les uns des autres sur ce sujet.
Alors venons-en à Monterland. Alors Monterland, il fait partie de cette catégorie d'écrivains où son nom est encore connu. Monterland, on voit globalement, on sait, c'est quelqu'un qui écrit. En revanche, vous faites un sondage, vous faites un micro-trottoir, tout le monde a zappé qu'il était dramaturge, et pour sortir un roman, c'est très compliqué. Alors pourquoi ce choix de Monterland aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a donné envie de lui consacrer ce numéro en 2026?
Monterland, ça fait longtemps qu'on en parlait. Moi, j'ai découvert par le biais d'une pièce de théâtre que j'étais allé voir avec mon ami Yves, d'ailleurs, au début des années 2010, au Théâtre du Nord-Ouest. Ça avait été monté par Jean-Luc Génère, qui avait fait une intégrale Monterland avec le courage habituel qu'il anime. Et j'avais été absolument marqué, notamment par le maître de Santiago, dont Julien Green, d'ailleurs 60 ans ou 70 ans avant, l'avait vu aussi 60 ans avant peut-être, ne le vieillissons pas trop, avait été marqué par ce maître de Santiago et par cette espèce de contraste qu'il y avait entre cette puissance, cette volonté effectivement chrétienne de pureté un peu janséniste qu'on pouvait trouver chez le maître de Santiago et en même temps une espèce de côté moraliste quand même à la Nietzsche qui me plaît beaucoup chez Monterland, c'est qu'il arrive d'une manière extrêmement habile et artistiquement à montrer ici ou là les ambivalences, les clairs obscurs qui peuvent animer l'âme humaine. Et je crois que le sujet de Monterland, c'est le cœur humain, ça c'est une certitude. C'est ce syncrétisme un petit peu aristocratique où on trouve évidemment l'évocation de tous les antiques, de tous les anciens, de les Romains notamment. Et je crois que Monterland, c'est un grand inactuel une fois de plus, un peu comme Nietzsche. Et il est là pour nous initier finalement à des philosophies qu'on tend parfois un peu à oublier. Et j'aime beaucoup lire ses carnets, par exemple, ses essais aussi, ses romans sur les femmes. Puis il a une drôlerie, une ironie qui est tout à fait singulière. Et je crois que c'est un artiste complet. Voilà, c'est un artiste complet, classique. Et c'est vrai que dans la revue, on essaie souvent d'alterner entre des figures assez diverses, parfois des aventuriers. Hein. On a pu faire un numéro sur, par exemple, Éric Tabarly en 2018, quand on avait pour les 20 ans de sa disparition. Et je crois qu'en réalité, entre un Tabarly, un Monterland, un Huguenin, un Maurice René et que sais-je encore, il y a une communion d'âme avec cette ligne de conduite extrêmement forte qui fait la marque de fabrique des artistes, des aventuriers. Donc on s'est dit, Monterland en 2026, allons-y. Et puis c'est comme ça qu'on est partis tous ensemble sur cette piste Monterland.
Alors, aventurier, entier, complexe, plein de courants, catholicisme, tauromachie, collaboration peut-être, misogynie sûrement, amitié avec des jeunes gens, suicide, il y a quand même beaucoup de choses dans Monterland. Alors comment vous, dans une revue, on peut malheureusement pas tout traiter, comment vous avez charpenté ce numéro-là, comment vous avez construit un chemin de fer? Qu'est-ce que vous voulez esquisser de Monterland? Qu'est-ce que vous voulez que le lecteur retienne? Parce qu'étant donné qu'on ne peut pas parler, qu'on est très complexe.
Je pense que nous, après, notre ligne de conduite dans la revue, c'est faire parler à la fois soit des témoins proches qui l'ont connu, si tant est qu'il y en ait, il y en a. Essayer de trouver aussi des inédits, parce qu'il y a aussi des inédits de Monterland. Et là, on a notamment dans la revue trouvé par le truchement d'un ami, Julien Paganetti, qui est marchand d'art, et qui nous a confié l'interrogatoire de Monterland par la société, par la SGDL, qui en réalité en 1945 envoyait des questionnaires sur d'épuration hein, pour savoir si tel écrivain avait collaboré ou pas. Donc une fois que j'ai eu, par exemple, pour prendre ces exemples précis, ces documents qui n'ont jamais été publiés, donc là c'est une première hein, dans la revue, on peut les voir représentés en facsimilé. J'ai contacté Patrick Brunel, donc après c'est des recherches, des investigations, là voilà, pour dire qu'est-ce qu'on fait de ces inédits. L'idée c'est quand même de les mettre en perspective. Patrick Brunel, donc de l'Institut catholique, qui est un spécialiste, peut-être le spécialiste de Monterland en France et dans le monde, et qui a accepté de d'éplucher ce questionnaire, et qui nous présente en effet un Monterland lors de la Seconde Guerre mondiale, extrêmement ambivalent. On pourra en parler plus en profondeur peut-être tout à l'heure, mais il met en perspective quelque chose effectivement d'extrêmement peu connu d'ailleurs, je crois, sur Monterland, sur qui on se fait des fantasmes de collaboration ou pas. Et donc voilà. Donc après, en fait, on additionne comme ça des témoignages, des témoins forts, des artistes qui souvent collaborent, si je puis dire, à la revue, et qui en réalité forment un puzzle. Avec, voilà, on me dit, j'aimerais traiter telle thématique, tel sujet, donc on évite évidemment les doublons et tout ça. Mais je crois que ça fait un ensemble qui se lie un peu comme une grande nouvelle, à défaut de faire quelque chose d'extrêmement académique. On est un peu contre cet académisme condescendant et assez insupportable parfois. Et on essaie d'avoir à la fois des choses extrêmement sérieuses sur le plan de l'histoire littéraire, avec par exemple Monsieur Brunel que j'évoquais, et en même temps de témoignages d'artistes qui l'ont fréquenté, et puis notre équipe habituelle qui va poncer l'œuvre de Monterland du début à la fin pour essayer d'en dégager une synthèse singulière. Voilà, ce sont des singularités qui proposent leur perception, leur vision de Monterland, et en même temps d'une manière vivante avec un style. Voilà, on n'est pas là pour mettre nos petites lunettes et puis oh Monsieur Monterland a fait ceci, a fait cela, etc. Donc on essaie de faire quelque chose de vivant, et surtout le but de la revue, c'est ça depuis le début, c'est d'initier les lecteurs et leur donner envie après de poursuivre. C'est une grande initiation, je dirais, le dossier qu'on a en main.
Alors vous l'avez dit, il y a beaucoup de de personnes mérites qui ont collaboré, Patrick Brunel et Nombruel, Philippe de Saint-Robert évidemment, vous avez le père Prigent, et puis vous avez donc M le Maudit, à savoir Gabriel Maznev, puisqu'il fait partie de ceux qui l'ont rencontré. Alors qu'est-ce que vous avez appris de ce que vous raconte Maznev, de sa rencontre avec Monterland?
Ah oui, là c'est vrai que c'est... En fait, je pense que c'était Maznev, en l'occurrence, était un témoin totalement indispensable en réalité à ce dossier, dans la mesure où c'est lui qui... Maznev a rencontré Monterland en 1957, donc il était tout jeune, il avait 20 ans. Il commençait à écrire des articles dans Combat, donc il nous raconte un peu cette genèse, etc. Et donc il rencontre Monterland en 57 et ils se prennent d'amitié tous deux, notamment sur les sujets de la République romaine et surtout les philosophes de la République romaine qui les animent avec ce paganisme latent qu'on voit chez Monterland et qui animait le jeune Maznev alors à l'époque. Et donc une amitié se poursuit pendant quasiment 15 ans, une amitié littéraire, une amitié de deux âmes qui se rencontrent. Et en 1972, quand Monterland se donne la mort, le 21 septembre à l'équinoxe, Maznev part avec Jean-Claude Barat, qui est son exécuteur testamentaire, celui de Monterland, sur le Forum romain pour accomplir les dernières volontés de Monterland, c'est-à-dire d'aller disperser les cendres de cet homme, de cet écrivain français, sur le Forum romain. Et donc, ils y vont. Il y a toute une expédition qui se met en place. Donc, Maznev faisait partie du premier cercle, à l'évidence. Et je dois dire que dans le grand entretien qu'on a fait avec lui, qui est un entretien inédit, Maznev a déjà parlé ici ou là, maintenant on l'entend plus parce que c'est très compliqué de l'entendre à plusieurs égards et que plus personne veut l'interroger. Mais je crois que nous, on fait le pas de côté nécessaire où on n'est pas dans l'actualité, je dirais. On n'est pas dans l'instant présent. Donc, par conséquent, ce témoignage est extrêmement important et nous explique en réalité toutes les coulisses de ce que fut Monterland, dans le privé aussi, c'est ça qui est intéressant, dans le public, la relation qu'il a eue avec Gabriel Maznev et puis avec cet acte final de ces deux amitiés qui se finit par cette dispersion des cendres. Et c'est un récit qui est, je crois vraiment poignant et qui nous montre là aussi un visage, parce que les hommes sont de multiples visages, mais un visage, je crois, beaucoup plus vrai de ce qu'est Gabriel Maznev, notamment par son amitié avec Monterland. Donc je crois que c'est là aussi ce numéro, on évoquait les inédits de présentés par Patrick Bell, et Saint-Robert également, qui a rencontré Monterland en 57, en même temps que Maznev, ce sont des témoins privilégiés. Enfin, comment à passer à côté, vous qui êtes directeur d'un organe de presse, passer à côté de témoins essentiels? Je crois que c'est impossible et que par conséquent, les lecteurs jugeront avec subtilité tout ce qui pouvait animer ces hommes qui se sont fréquentés il y a maintenant 70 ans presque.
D'ailleurs, c'est assez amusant, c'est Philippe de Saint-Robert, en effet, qui l'a rencontré, écrit que Monterlon est familier, drôle et direct. Et alors, je ne sais pas si c'est un biais wikipédesque ou autre, mais ce n'est vraiment pas l'image que j'avais de Monterlon, en tout cas l'image qu'il rendait à travers ses œuvres, familier, drôle et direct. Romaric.
Oui. Oui, je crois qu'on pourrait, parmi les raisons d'un choix, enfin du contre-panthéon que les jeunes gens de Raskar Kapak entretiennent, forment, érigent depuis une dizaine d'années, il y a un point commun entre ces différents auteurs qui est qu'ils ont tous une dimension de professeur d'énergie, comme on disait au début du XXe siècle, comme Barrès disait, en fait, j'ai enfin retrouvé la genèse de cette expression, puisque Monterlan parle de Barrès en tant que professeur d'énergie, mais Barrès parlait en fait de Napoléon comme professeur d'énergie. Donc voilà, mais quelque part, Monterlan est lui-même exemplairement un professeur d'énergie, et puis bon, bah, Jean-René Huguenin, évidemment, Tabarly à sa manière, c'est-à-dire que ce sont tous des écrivains qui galvanise et qui pousse à se confronter à la vie de manière supérieure, ce en quoi Monterlan est encore plus, enfin je me disais, en effet c'est un candidat parfait pour la momie, puisque Monterlan est par excellence le professeur d'énergie, lui qui a écrit par exemple La vie en forme de proue, comment résister à ce genre d'image et à cette attitude toujours franche, héroïque et altière qu'a pu avoir Monterlan tout au long de sa vie. Tout ça pour poser une question, c'est que ce sont des gens qui ont aussi un rapport à la vie. Moi, c'est toujours ce qui m'a frappé aussi quand j'ai lu Monterlan et il a été pour moi aussi un professeur d'énergie, un professeur de maturité, c'est un rapport à la vie. Et ce qu'il y a de très fort chez Raskar Kapak et qui s'oppose peut-être à la manière plus universitaire ou finalement inoffensive de traiter la littérature. Entre la grande librairie et la Sorbonne, il y a une manière de momifier la littérature ou de la rendre totalement anodine, inoffensive. Vous aimez les auteurs qui plongent, qui poussent à vivre plus intensément, ou alors, comme l'aurait dit Antonin Artaud, à manger son destin par la littérature. Donc voilà ce préambule pour vous demander en quoi Monterlan réalise ce projet peut-être plus que d'autres ou différemment de vos autres professeurs d'énergie.
Oui, non, mais c'est voilà, je souscris à tout ce qui vient d'être dit, hein, Romaric. Ça, c'est sûr que nous, notre contre-panthéon s'établit sur des vitalistes en réalité qui ne sont pas précisément des professeurs de Sorbonne. On n'a rien contre les professeurs de Sorbonne. Vous receviez Michel Maffezoli. Je participe de manière régulière et à ses apérologies, comme il le dit.
Il nous en a parlé tout à l'heure.
Lui, il est formidable, Michel. Et son livre est vraiment excellent. Donc, nous, on a bien entendu rien du tout contre ces professeurs d'université, surtout comme Michel, une fois de plus d'ailleurs, qui est un Raskar Kapien. Il est d'une vitalité, quand on le connaît, qui est extraordinaire, que ce soit dans ses livres ou dans la vie personnelle, c'est le cas. Et Monterlan, c'est tout aussi la même chose. Moi, ce que j'aime dans ces artistes, et notamment dans l'exemple de Monterlan, c'est finalement le premier mot posé par la plume, lorsqu'il est tout jeune, ses premiers livres parus, et puis la manière aussi dont il décide d'en terminer. Je crois qu'il y a une vision esthétique de sa vie, un peu à la Mishima, que j'apprécie beaucoup aussi, autre auteur que j'apprécie beaucoup. Et là aussi, on aurait pu imaginer un quintet de dîner avec Mishima, Monterlan, etc. Ça pourrait être extraordinaire.
Ça serait fini en suicide géant. C'est un grand suicide, oui. À l'aube.
Mais en même temps, dans une grande gaieté. Je veux dire, Mishima était quelqu'un d'extrêmement gai, qui était très pessimiste.
Dans tous les sens du terme, oui. En l'occurrence.
qui était extrêmement gai dans tous les sens du terme, mais qui était gai tout de même, qui portait une joie, une beauté en lui. Et Monterlan, c'était aussi la même chose. Quand Philippe de Saint-Robert, dans notre entretien, évoque ce Monterlan intime, bien sûr que Monterlan était très drôle et pouvait parler de choses intéressantes et importantes, mais avant tout, ce qu'il aimait, c'est parler de la vie, tout simplement. de la vie. C'était des moralistes, ces gens-là, qui observaient la vie, qui étaient extrêmement fins, et puis qui en riaient aussi, avec des accents à l'assurant, justement. Et moi, ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on est sur des personnalités qui sont... qui peuvent paraître effectivement contradictoires, on est tous contradictoires avec tous nos paradoxes, et qui en même temps ont cette ligne directrice, cette ligne droite jusqu'au bout, jusqu'à leur dernier souffle, cette ligne esthétique qui que je trouve pour ma part admirable. Et je crois que Monterland, sans faire là aussi l'éloge ou l'apologie de la mort volontaire, c'est même pas le sujet, mais quand on l'a lu, et là encore j'appelle vraiment les auditeurs à lire, tout simplement à lire, à se faire une opinion en lisant, sans avoir tous ces espèces de trucs et bidules qu'on peut voir sur Wikipédia, sur les réseaux sociaux, etc. Faites le pas de côté nécessaire et lisez dans le cœur un Henri de Monterland, par exemple, et on est forcément charmé, parfois agacé, parfois tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est une phrase d'ailleurs que j'ai mis en préambule, je crois, de mon texte. Il dit ainsi, il écrit ça quelques jours avant de se donner la mort. Il avait pris cette décision-là à la mesure où il devenait aveugle, où c'était extrêmement compliqué pour lui et que ça fait partie de sa diététique existentielle. Ainsi, gloire à la vie quand on a su la mener intelligemment, gloire à la mort quand on sait l'accueillir raisonnablement. Donc là, ça peut être une phrase en réalité d'un Sénèque. C'est là où c'est formidable, c'est qu'on voit que même au XXe siècle, en réalité, on pouvait trouver des disciples rigoureux du stoïcisme romain. Et à défaut de passer sa vie sur les réseaux sociaux, lisez Monterland, faites-vous un point de vue, un avis esthétique, et en plus votre âme en sortira grandie, même si on n'est pas d'accord avec tout, là n'est pas la question. Donc voilà, Monterland pour sa ligne droite du début à la fin.
Vous êtes toujours sur Restons Courtois, l'émission de débat et de conversation de Radio Courtoisie. Nous sommes donc avec Maxime Dahl, qui est le directeur de la publication de l'excellente revue Raskar Kapak, dont le nouveau numéro est consacré à Monterland. Et donc, on parle de Monterland. Mais nous avons un petit message pour vous, chers auditeurs. Vous l'aurez compris, on a besoin de vos sous-sous. C'est l'heure de défiscaliser, de nous faire des dons. Donc écoutez ce petit message et on se retrouve.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Et oui, vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission débat de Radio Courtoisie, et c'est l'heure de la chronique de Romaric Sangars. Alors, cher Romaric, vous vouliez nous parler aujourd'hui des métaphores d'Ernest Pinard, quel joli nom.
Métamorphose
d'Ernest Pinard. Mais j'étais obsédé par le nom Pinard.
Je comprends qu'il vous trouble.
Mais alors, de quoi s'agit-il donc?
Eh bien, cher Arthur, son nom ne vous est peut-être pas familier, mais vous, enfin, quoi que Pinard, enfin, vous est familier, mais pas forcément Ernest Pinard, mais vous le reconnaissez très bien. Ernest Pinard est une figure illustre de la mythologie littéraire française. Ce procureur qui fit une brillante carrière sous le Second Empire est resté célèbre pour avoir mis en accusation successivement deux des plus grands chefs-d'œuvre de notre littérature, Madame Bovary de Flaubert, puis Les Fleurs du Mal de Baudelaire, tous deux publiés durant l'extraordinaire année 1857. D'une certaine manière, Pinard a consacré leur grandeur d'une aura sulfureuse, signalé l'ébranlement artistique produit par ces deux livres semblables à des obus, en manifestant juridiquement une espèce de panique bourgeoise devant la déflagration du génie. Dans l'imaginaire collectif, on a retenu de cet épisode l'extrême pudibonderie du Second Empire et l'idée qu'une grande œuvre devait forcément heurter la morale sexuelle ou religieuse de son époque, ce qui était une interprétation partielle des faits et ce qui a poussé beaucoup d'écrivains médiocres après la mort de tous les Pinards de France, la révolution sexuelle de mai 68 et la déchristianisation des sociétés occidentales, de s'imaginer qu'il suffisait de parler de cul et de bouffer du curé au milieu d'athées nudistes pour être assimilable à Flaubert ou Baudelaire. Évidemment, c'était un raccourci grotesque, mais c'est ainsi que d'un moment mythologique, on fait un folklore, et d'un folklore un lieu commun usé et trompeur, un pastiche, un poison.
Ernest Pinard aurait donc a priori disparu.
Oui, sauf si on sait lire ses métamorphoses. Mais pour cela, il faut déjà comprendre correctement le prototype. Lorsque Pinard 1 incriminait Flaubert parce que l'auteur, en usant d'un ton ambigu pour présenter les dérives de son héroïne, aurait semblé faire la promotion de l'adultère, on se dit aujourd'hui qu'il avait tout de même la pudibonderie tatillonne. On oublie alors que ce n'était pas tant l'acte en lui-même que condamnait le procureur impérial, mais son impact sur le tissu social dont il était le défenseur. On oublie que Pinard n'attaquait pas tant la libido et les fantasmes de la pauvre Emma Bovary que la complaisance envers ce qui pouvait s'avérer un dissolvant familial et par conséquent un déchirement progressif de la société entière. Si le ciment social avait dépendu de la fidélité des couples, nous disons-nous, alors les royaumes se seraient effondrés plus rapidement. Oui, mais le royaume n'en était plus un, puisque le roi avait eu la tête tranchée et avec lui la nation entière, si bien que celle-ci, ne tenant plus par un repère transcendant incarné en la personne du roi, était condamnée depuis à tenir par sa seule cohérence et sa seule discipline intérieure. Il fallait donc normaliser la population et encourager sa vertu civique, soit sa capacité à sacrifier sa peau contre la patrie ennemie et à ne pas convoiter le corps de la femme du voisin. Dans ce contexte, l'adultère n'était plus seulement un crime moral à confesser au curé, mais un crime social mettant en péril l'ordre d'une société qui émergeait en titubant d'une révolution, d'une guerre civile, d'une épopée impériale dévastatrice et de trois changements de régime successifs. Voilà ce qu'avait attaqué Pinard chez Flaubert, non pas tant le désir licencieux d'une femme soumise, mais le crime social possiblement promu au sein d'une nation dont l'équilibre était désormais très précaire. Il ne faut donc pas chercher les descendants d'Ernest Pinard dans les pudibonds effarés, mais chez les vigies du crime social.
On ne peut pas dire que l'adultère soit encore considéré comme un crime social à notre époque. Qu'est-ce que le nouvel Ernest Pinard irait donc reprocher au potentiel Flaubert ?
En effet, cher Arthur, l'adultère est même librement promu sur les affiches de l'application Glidden, tout simplement parce que le modèle social aujourd'hui dominant piétine les anciens contrats sociaux, et le premier d'entre eux, le mariage monogame hétérosexuel. La société actuelle, dont le projet se présente comme purement juridique et économique, se méfie des familles traditionnelles qui constituent comme de petits royaumes indépendants qui échappent aux logiques marchandes. Cette société promeut au contraire la multiplication des contrats élastiques et interchangeables, alliant des individus monades voués à articuler le méta-organisme d'une immense colonie d'insectes dans la fluidité, la vitesse et la métamorphose permanente. C'est le projet totalitaire, mais ayant dépassé l'effet masse pour accoucher d'un effet réseau. C'est un peu le passage de la technologie de Terminator 1 à celle du T-1000 de Terminator 2. Ce n'est plus l'ère jupitérienne des titans que dénonçait Ernst Jünger, mais l'ère saturnienne où tout est vague, tout est liberté sous contrôle et individualités interchangeables, ce que Renaud Camus appelle la matière humaine indifférenciée. Dans ce contexte, le crime social majeur, ce n'est pas d'attaquer la famille, voire attaquer la famille est plutôt encouragé pour mener à bien le projet. Non, le crime social suprême, c'est de douter de la réalisation du projet. Un projet qui ne tient justement que par sa projection, puisqu'il est dépourvu de forme stable. Le crime social suprême, c'est de douter de la réussite du multiculturalisme, de cet idéal de confusion généralisée des individus et des peuples dans la même masse fluide et dynamique en convulsion constante. C'est ce crime-là que Pinard ne laissera passer sous aucun prétexte, même s'il est commis par des grandes voix, surtout s'il est commis par de grandes voix littéraires.
Je vous vois venir, cher Omaric, vous voulez encore revenir sur les affaires qui ont émaillé le milieu littéraire français depuis 20 ans et abouti à l'exclusion donc de Maurice Dantec, Renaud Camus, Richard Millet, mais ont raté celle de Michel Houellebecq.
Vous voyez justement, cher Arthur, mais remarquez que j'ai changé d'angle pour y parvenir. Je crois qu'au moment où le pouvoir médiatico-culturel tremble, il est important de lui rappeler ses crimes et de lui montrer son vrai visage. La grande différence entre la séquence Pinard-Flaubert du 19e siècle et les séquences Pinard-Camus, Pinard Dantec ou Pinard Millet du 21e siècle, c'est que dans les secondes, Pinard a gagné, au moment où tout le monde s'imaginait Flaubert. Et dans l'ère neptunienne, liquide, métamorphique en diable que nous vivons, il fallait naturellement qu'Ernest Pinard se déguise en Flaubert et qu'il soit 1000. C'est le Pinard 1000 de Procurator 2. Au lieu de plaider au tribunal au nom de la société et de l'État, il pétitionne en masse au nom de l'antifascisme dans une époque où fascisme est le synonyme de stabilité et que le pouvoir totalitaire a justement opéré sa mue vers la fluidité permanente. Ernest Pinard n'est pas momifié dans le folklore littéraire du 19e siècle, non. Ernest Pinard monte les marches du Festival de Cannes. Ernest Pinard signe des pétitions pour interdire des écrivains ou alerter sur la possibilité d'un fascisme différent de celui qu'il pratique. Ernest Pinard reçoit le prix Nobel. Ernest Pinard est en couverture des Un Rock. Ernest Pinard est partout où il y a des caméras, des flashs et des tribunes. Nous vivons le moment où Ernest Pinard a pris la place de Flaubert et s'écrit, au moment où vous remettez en cause son tribunal permanent, « Quoi ? On s'attaquerait à la culture ?»
Merci, cher Romaric. Ernest Pinard ressemble quand même vachement à Annie Ernaux. Mais alors, revenons à Monterland, qu'Ernest Pinard aurait bien aimé se farcir également. Vous en avez parlé, cher Maxime Dalle. Je vous rappelle que vous êtes le directeur de la publication de la revue Raskar Kapak. Et donc, on parle de Monterland, puisque votre nouveau numéro lui est consacré. Et vous nous avez parlé un peu de... On esquisse un peu les portraits de Monterland, en tout cas les différents angles. Et donc, il y en a un où il y a de la réalité, des légendes, des mythes. On ne sait pas trop où se situe quoi. C'est sous l'occupation. Et donc, il y a une grande partie, un chapitre dédié à Monterland sous l'occupation, puisque vous offrez même à vos lecteurs un document inédit appelé le questionnaire de la Société des auteurs et compositions dramatiques, adressé à Monterland en 1945 et rempli par lui-même. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sans trop dévoiler ce que vous réservez à vos lecteurs, puisque si vous voulez tout savoir, chers auditeurs, ben vous allez acheter la revue de Raskar Kapak. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu et de tout ce qu'il y a de faux sur ce qu'on raconte de Monterland, ou la légende de Monterland sous l'occupation?
Alors c'est vrai que pour ceux qui ne le connaissent pas, on dit Monterland de droite, forcément qui a fricoté un peu avec les Allemands, etc. Donc il y a quand même cette légende-là, pour en tout cas ceux qui ne l'ont pas lu, qui peut persister, parce que peut-être que Monterland, Morand, il y a une même connotation, une même phonie comme ça. Donc on peut faire cette confusion-là. Alors ce qui est assez intéressant, c'est dans les facsimilés inédites que j'ai sous les yeux, Monterland, effectivement, répond finalement à tout ce qui est de l'ordre de la collaboration active, passive, etc. Après, ce qui est intéressant à l'égard de ces facsimilés, alors il n'y a pas que des noms, hein, il y a aussi on lui demande par exemple, avez-vous eu des relations avec les occupants? Donc là, il dit, j'ai vu Monsieur Brenner, tatati tatata. Donc il explicite un petit peu tout ça avec sa jolie écriture. Mais ce qui est important, je crois, dans ce numéro, c'est ce qui vient à côté, c'est-à-dire c'est l'analyse de Patrick Brunel, donc de l'Institut catholique de Paris, qui va finalement comparer, et je crois que c'est un peu le cœur, je dirais, de cette analyse qui est intéressante, des éditions différentes qui sont parues pour certaines à la fin des années 30, au début des années 40, de certains de ces ouvrages, qu'il, finalement, dès 45-46, lors de rééditions, caviarde certaines lignes, certaines phrases, qui peuvent paraître effectivement extrêmement ambiguës sur la roue solaire, sur le vitalisme particulier, où on peut y voir poindre peut-être l'homme nouveau du fascisme. Et donc Monterland avait bien compris et bien saisi que les quelques envolées lyriques qu'il avait pu avoir à l'égard du fascisme allaient aujourd'hui mal le servir, c'est une certitude, et que par conséquent, chose qu'on ne savait pas, parce qu'il faut quand même aussi être sur le coup universitaire et être extrêmement tatillon sur les différentes éditions qu'on nous présente pour voir les phrases qu'il manque, les mots parfois qu'il manque, et je crois que Monterland, la collaboration active est totalement fausse, ça n'est pas le cas, et il y a diverses preuves qui sont apportées ici dans ce dossier. En revanche, j'ai pu avoir effectivement des phrases ambiguës, des phrases fortes, qui ont été ensuite, par la suite, caviardées par lui-même. Et donc, il y a tout ce travail d'analyse de texte, et qui en plus n'est pas, me semble-t-il, ennuyeuse, c'est qu'on voit ça comme une investigation d'un enquêteur. Et ça nous présente un Monterland, là aussi, ambigu, contrasté, paradoxal, dans sa vérité la plus absolue, c'est-à-dire la vérité historique de ce qu'il a fait en 39-45, de ce qu'il a écrit, et de la manière dont il s'est positionné après la défaite des Allemands, donc en fin 44-45. Et on a une analyse complète un petit peu de ce Monterland de l'occupation qui vient remettre un petit peu l'église au milieu du village, en la matière. On peut l'aborder, l'appréhender à sa juste valeur, je crois. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus non plus. Après, il faut lire, je crois, le dossier pour se faire une opinion. Mais c'est quelque chose qui n'avait pas été évoqué de cette manière-là, avec autant de précision et d'érudition. Et c'est ce qu'on propose au lecteur dans ce numéro.
Rémi Carlu.
Oui, l'une des singularités de Monterland, c'est aussi la diversité des genres littéraires qu'il a pratiqués. Michel Maffezoli disait en première partie d'émission que seuls les cornichons se laissaient enfermer dans des bocaux. Et Monterland, on peut précisément ne pas l'enfermer dans un seul genre, puisqu'il y a le romancier, le dramaturge, l'essayiste, le moraliste, il y a aussi les carnets dont vous avez parlé. Quel rapport entretenait-il, lui, à la diversité de ses genres littéraires? Est-ce qu'il avait un genre de prédilection, un genre dans lequel il a particulièrement excellé? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un genre dans lequel il vous semble inférieur aux autres?
Moi, je trouve qu'un écrivain, c'est en réalité, peu importe le genre qu'il emploie, c'est un tout. Donc, qu'il écrive du théâtre, roman, essai, ou même des pensées, des petits aphorismes ici et là dans ses carnets, c'est un tout, et je crois qu'il faut le prendre comme un tout. Après, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ces romans, ces jeunes filles, notamment ces quatre livres qui viennent ici composer sa perception à la fois ironique et tout à fait parfois juste tout de même de des femmes, et en même temps avec un art du roman qui est très fort. Mais là, peut-être pour revenir à ce qu'on disait avec Romaric tout à l'heure, c'est que je crois que c'est quelqu'un qui aide à vivre et à mieux vivre et à vivre d'une manière plus grande. Donc moi, ce qui m'émeut le plus chez Monterland, c'est le Monterland de l'essai, du service inutile. C'est le Monterland aussi qui évoque la foi. Moi qui suis catholique, je suis toujours fasciné et intrigué. J'aime me poser des questions et me confronter avec des hommes, des figures païennes. J'évoquais Lucien Rebatté en faisant un petit clin d'œil de social-démocrate tout à l'heure en préambule de l'émission, mais c'est parce que Lucien Rebatté, dans les deux étendards, dans son livre phare, dans ce trio qui met en place entre cette jeune femme et ces deux hommes, l'un nietzschéen extrêmement tellurique, extrêmement païen, et l'autre Régis, qui est un séminariste, un jésuite, qui maîtrise la théologie catholique parfaitement. Et donc il y a ces conversations de foi fait par Rebatté, qui lui-même était relativement, c'est le moins qu'on puisse dire, anti-chrétien, qui, moi, me fascinent et me font aussi grandir dans ma propre foi. Et je crois que Monterland, par tous les biais qu'il aborde dans ses carnets, dans ses essais, vient aussi donner un champ de vérité, m'ouvre un champ de perspective qui est extrêmement fort. Donc, à la fois dans Le Maître de Santiago que j'évoquais, Port-Royal, pièce de théâtre encore, je crois que c'était un excellent écrivain de pièces de théâtre, ça c'est une certitude, mais après à chacun de voir ce qu'il peut y puiser, mais je crois qu'il était fort partout, c'est là où c'était sa force, c'était un grand romancier, un grand homme de théâtre, alors sur la poésie il a peut-être écrit ici et là des vers de Mirliton là où il vivait, donc à Paris face à la Seine, c'est bien possible, mais en tout cas le tout forme une pensée, forme un style, une manière de vivre qui après, selon les perceptions, les singularités des uns et des autres, eh bien, viendra nous toucher avec plus ou moins de force.
Romaric Sangars.
Oui, cher Maxime, Monterland est aussi un homme de masque par excellence, et c'est sans doute par là qu'il est le plus étrange, l'homme de la clarté solaire et de la sobriété, et de la qui en fait est un homme à masque, d'abord parce que quand il écrit la série des jeunes filles, qui est un best-seller des années 30, qui le fait passer pour un séducteur, un pénitent et misogyne, on se rend compte plus tard qu'en fait il n'a jamais aimé les femmes. Je me rappelle même avoir lu d'ailleurs une biographie de Monterland que j'avais trouvée sur les quais de Seine, où dans la postface l'auteur raconte qu'il ne savait pas à l'époque que Monterland était homosexuel, et donc il a écrit toute une biographie qui faisait rire ses amis, qui faisait rire le milieu parisien qui était au courant, c'était l'homme qui n'aimait pas les photographies, c'est pour ça d'ailleurs que Gainsbourg avait attiré son morceau « I am the boy that can enjoy invisibility » sur l'obsession de Monterland sur le contrôle de son image. Bref, tout ça pour dire, c'est un homme tout de même très mystérieux, qui a revêtu beaucoup de masques, qui s'est beaucoup caché, peut-être beaucoup plus mystérieux en plus qu'on l'imagine, derrière même sa posture un peu de stoïcien romain implacable. Il y a un homme extrêmement complexe et plein d'ombres. Donc, quel a été un peu le résultat aussi de cette enquête sur Monterland? Ce mystère s'est-il encore épaissi ou s'est-il un peu plus éclairci?
Ah oui, là, vous avez tout résumé, mon cher Romaric. C'est que Monterland, c'est l'homme des masques, mais pas, je dirais, celui qui avance masqué avec une certaine duplicité, etc. Ou là, ce serait quelque chose de qui, moi, en tout cas, pour ma part, me semblerait pas forcément intéressant. C'est l'homme des masques au sens du théâtre no japonais, c'est-à-dire qu'il revêt à la fois tous les masques qu'il porte en lui. C'est que c'est un homme de paradoxe, vous l'avez dit, et que ces paradoxes, successivement, il va les vivre. Et il a énoncé ce concept un petit peu qu'il a présenté dans ses ouvrages, qui est le concept de l'alternance, de l'équivalence alternance, qui consiste finalement à être soi-même dans sa totalité d'une manière successive. C'est-à-dire que, à défaut, plutôt que de s'amputer, et c'est ce qui le tenait un petit peu à l'écart d'une certaine théologie catholique extrêmement orthodoxe, c'est-à-dire de vouloir amputer finalement l'homme ancien de tout ce qu'il faisait, de tout ce qui faisait sa sève, à la fois ses sens, ses passions, mais aussi toutes ses curiosités panoramiques. Je crois que Monterland nous donne les clés d'une discipline à travers des masques qui ne sont pas des masques duplices, mais qui sont des masques qui nous représentent, où il faut essayer d'agencer à la fois qu'on peut être à la fois dur, on peut être à la fois tendre, on peut à la fois être charitable et parfois effectivement couper dans le gras les choses qui nous déplaisent. Et je crois que Monterland est un maître. Vous évoquiez en première partie d'émission avec Michel Maffezoli ce côté maître, maestro. Moi, je crois que ça me parle beaucoup, ça aussi. Et Monterland a cette capacité d'initiation à la maîtrise de soi sans amputer d'une manière abusive et d'une manière finalement extrêmement contre-productive tout ce qui fait la splendeur et les caractères divers de l'âme humaine. Donc, à l'issue finalement du numéro, après avoir lu tous les contributeurs qui ont tous rendu à l'heure leurs articles et dont personne n'a moufté pour les divers et mais ceux qui font des articles en réalité très bons dès le départ, donc je corrige finalement assez peu, mais c'est quand même de voir le Monterland dans sa complexité, dans sa diversité. On a un article par exemple de Patrick Abraham qui est lui professeur par exemple de littérature à Pondichéry et qui parle du Monterland antique, des Olympiques, et puis un deuxième texte où il évoque ce cousinage improbable qu'il fait entre Monterland et Jean Genet, par exemple. Et là, on pourra en parler aussi longuement. Je crois que on est sur un Monterland multiple, complexe, avec de multiples masques. Et puis, je crois aussi qu'on peut prendre chez un écrivain, on peut lire l'intégralité. Je crois qu'on doit lire l'intégralité de l'œuvre d'un écrivain qu'on apprécie, mais sans pour autant souscrire à tout ce que dit ou tout ce que fait l'écrivain. Je veux dire, on est quand même des grandes personnes. Par conséquent, moi, pour Monterland, il y a des choses que je prends et qui me portent, d'autres que je laisse de côté, etc. Et donc, on reste dans un mystère Monterland, parce que Monterland, c'est ce qui en fait son génie aussi, je crois. C'est son mystère. Et j'évoquais sur leur fin un peu identique, dans d'autres circonstances, Mishima. Je crois que Mishima est un acte de paradoxe avec de multiples masques aussi. Et en même temps, c'est ce qui fait la beauté de ces artistes-là. C'est que, à la manière de Baudelaire, on est là en essayant de grappiller le moins possible dans ce qui fait l'intégralité et la radicalité de notre personnalité, de notre destin. Donc, on présente ça sur un magnifique plateau en argent. Et puis ensuite, à nous, lecteurs, d'y prendre, d'y savourer ce qui nous touche ou ce qui nous marque dans la trajectoire qu'on a décidé de vivre.
Merci beaucoup, Maxime Dalle. Donc, je rappelle, vous êtes le directeur de la publication de l'excellente revue littéraire Askar Kapak. Question pratique, où peut-on trouver votre revue ?
Alors, la revue, le mieux pour se la procurer, parce que on la diffuse aussi en librairie à Paris, mais tous les numéros ont été épuisés récemment. Ça a eu un gros succès. Donc, il reste quelques exemplaires encore sur notre site, notre site Askar Kapak. www.raskarkapak.com. Et donc là, vous pouvez obtenir ce magnifique dossier, qui est un dossier quand même d'une soixantaine de pages sur un très beau papier, avec là aussi des représentations de Monterland, une iconographie tout à fait rare et inédite. Et puis là aussi, on évoquait les témoins principaux, mais il y a aussi dans tout cela les plumes de Gilles Brochard, de Charles Gonzalez, de Simon Bernard, d'Archibald Denet, et même une nouvelle inédite de Jean-François Coulon-Désert, parce que je crois qu'aussi une revue littéraire, c'est certes refaire vivre le feu et la flamme d'un artiste, mais c'est aussi passer le flambeau et être dans la création littéraire en tant que telle. Donc il y a de tout dans cela, et donc j'invite les auditeurs qui le souhaitent à découvrir notre numéro sur notre site raskarkapak.com. Voilà.
Message bien reçu, vous l'aurez compris, chers auditeurs, allez sur les internets pour commander les derniers exemplaires qui restent. Et je vous rappelle également le livre de Michel Maffezoli que nous recevions en première heure, Mes tribus, souvenirs, pensées et rencontres aux éditions du Cerf. Chers amis, on se retrouve mercredi prochain. Demain, c'est Marc Hainaut de Valeurs Actuelles qui sera au micro de Restons Courtois. Et vendredi, Marc Baudrier de Valeurs Actuelles. Je vous souhaite une bonne soirée, bien chaude, bien transpirante. Et à très bientôt.
Ça suffit maintenant!